C'est fait. C'est un verbe performatif. Il suffit de le dire. Comme il faut le dire au sens absolu du verbe. Et c'est accompli. Je viens de me sauver, et donc de sauver tout ce qui est. Mon père le sait-il? Sûrement pas. Il n'a aucun sens de l'improvisation. Ce n'est pas sa faute. Pour être capable d'improviser, il faut avoir un corps. J'en ai encore un. Je n'ai jamais été aussi incarné. La souffrance me cloue à mon corps. L'idée de le quitter m'inspire des sentiments contrastés. Malgré l'immensité de ma douleur, je me rappelle ce que je dois à cette incarnation. Au moins, j'ai cessé de me torturer dans ma tête. C'est un allègement considérable de plonger dans le regard de Madeleine. Elle sent que c'est gagné. Elle acquiesce. Depuis combien de temps suis-je sur cette croix? Les lèvres de Madeleine esquissent des paroles que je n'entends pas. Comme c'est à moi qu'elle s'adresse, je vois la trajectoire dorée de ses mots se diriger vers moi. Le crépitement d'étincelles dure plus longtemps que sa phrase. Je reçois en pleine poitrine leur impact. Fasciné, je l'imite. Je prononce des mots inaudibles à son adresse et je les vois sortir de moi sous la forme d'un faisceau d'or. Et je sais qu'elle les incorpore. Les autres ont toujours leur air apitoyé. Ils n'ont pas compris. Il faut reconnaître que ce qui fait ma victoire est ténu. Je ne suis pas encore mort. Comment tenir jusqu'au bout? Si étrange que cela puisse paraître, je sens que je pourrais m'effondrer. Ce qui signifie que je ne le suis pas. Afin d'éviter l'effondrement, je recours à la bonne vieille méthode. L'orgueil. Le péché d'orgueil, si vous voulez. Au point où j'en suis, ce péché me semble si dérisoire que je me le pardonne d'avance. Orgueil, oui. J'occupe en ce moment une place qui va obséder l'humanité pendant des millénaires. Que ce soit un malentendu n'y change rien. Il sera donné à une seule personne d'avoir ce poste d'observation. Non que je sois l'ultime crucifié de l'espèce, ce serait trop beau, mais parce qu'aucune crucifixion n'aura jamais pareil retentissement. Mon père m'a choisi pour ce rôle. C'est une erreur, une monstruosité, mais cela demeurera l'une des histoires les plus bouleversantes de tous les temps. On l'appellera la passion du Christ. Non judicieux, une passion désigne ce que l'on subit, et, par conséquence sémantique, un excès de sentiments auquel la raison n'a pas pris part. Mon père n'a pas eu tort de m'attribuer ce rôle. Je conviens. J'ai été capable d'assez d'aveuglement pour me tromper à ce point, d'assez d'amour pour me pardonner, et d'assez d'orgueil pour garder la tête haute. J'ai commis la plus grande des fautes. Elle aura des conséquences incalculables. Eh bien voilà. Il est dans la nature des fautes d'avoir des conséquences. Si moi je peux me pardonner, alors tous ceux qui se tromperont gravement pourront se pardonner. Tout est accompli. Je l'ai dit. Je m'en aperçois après avoir parlé. Tout le monde a entendu. Mes paroles provoquent l'affolement. Le ciel s'assombrit d'un coup. Je n'en reviens pas du pouvoir de mes mots. J'aimerais parler davantage pour déclencher d'autres phénomènes, mais je n'en ai pas la force. Luc écrira que j'ai dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Contresens ! C'est à moi que je devais pardonner. Je suis plus fautif que les hommes, et ce n'est pas à mon père que j'ai demandé pardon. Je suis soulagé de ne pas l'avoir dit. C'eût été de la condescendance envers les hommes. La condescendance est la forme de mépris que j'exècre le plus. Et franchement, je ne suis pas en situation de mépriser l'humanité. Je n'ai pas dit non plus à Jean, qui n'était pas plus là que les autres disciples, « Voici ta mère », ni à ma mère, qui avait la bonté d'être absente. Mère, voici ton fils. Jean, je t'aime beaucoup. Cela ne t'autorise pas à dire n'importe quoi. En même temps, cela n'a guère d'importance. Il faut que je m'économise. J'ai atteint le stade où parler produit enfin l'effet voulu. Quelle performance langagière veux-je obtenir? La réponse me saute au cœur. Du plus profond de moi jaillit le désir qui me ressemble le plus. Mon besoin chéri, ma botte secrète, mon identité véritable. Ce qui m'a fait aimer la vie, ce qui me l'a fait aimer encore. J'ai soif. Demande stupéfiante. Personne n'y avait songé. Quoi, cet homme qui souffre à ce point depuis des heures peut avoir un besoin aussi commun? On trouve ma supplique aussi bizarre que si je demandais un éventail. C'est la preuve que je suis sauvé. Oui, au degré de douleur où je suis arrivé, je peux encore trouver mon bonheur dans une gorgée d'eau. Ma foi est intacte à ce point. De toutes les paroles que j'ai prononcées sur la croix, c'est de beaucoup la plus importante. C'est même la seule qui compte. En quittant l'enfance, on apprend à ne plus contenter sa faim dès qu'elle apparaît. Personne n'apprend à différer le moment d'étancher sa soif. Quand celle-ci surgit, on l'invoque comme l'urgence indiscutable. On interrompt son activité, quelle qu'elle soit, on cherche de quoi boire. Je ne critique pas. Boire est si délicieux. Je regrette néanmoins que nul n'explore l'infini de la soif, la pureté de cet élan, l'âpre noblesse qui est la nôtre à l'instant où nous l'éprouvons. Jean, chapitre 4, verset 14. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Pourquoi mon disciple préféré profère-t-il un tel contresens? L'amour de Dieu, c'est l'eau qui n'étanche jamais. Plus on en boit, plus on a soif. Enfin une jouissance qui ne diminue pas le désir. Faites l'expérience. Quelle que soit votre préoccupation physique ou mentale, couplez-la avec une vraie soif. Votre quête s'en trouvera aiguisée, précisée, magnifiée. Je ne demande pas de ne jamais boire. Je suggère d'attendre un peu. Il y a tant à découvrir dans la soif. À commencer par la joie de boire, que l'on ne célèbre jamais assez. On se moque du propos d'Épicure. Un verre d'eau et je crève de jouissance. Comme on a tort. En vérité, je vous le dis, tout clouté que je suis, un verre d'eau me ferait crever de jouissance. Je me doute que je ne l'aurai pas. Je suis déjà fier d'en avoir le désir et heureux de savoir que d'autres que moi connaîtront ce plaisir. Évidemment, personne n'a prévu ce cas de figure. Sur le Golgotha, il n'y a pas d'eau. Et même s'il y en avait, il n'y aurait pas moyen de se hisser jusqu'à ma tête pour porter un gobelet à mes lèvres. J'entends au pied de la croix un soldat dire à son chef « J'ai de l'eau mêlée de vinaigre, je lui entends sur une éponge ?» Le supérieur l'y autorise. Sans doute parce qu'il ne mesure pas l'importance de ma requête. Je frémis à l'idée d'éprouver une dernière fois une sensation pareille. J'écoute le bruit de l'éponge qui se gorge de liquide. Ce son voluptueux me chavire de bonheur. Le soldat plante l'éponge au bout d'une lance et la hausse jusqu'à ma bouche. Si épuisé que je sois, je mords l'éponge et j'aspire son suc. J'exulte. Que c'est bon! Ce goût de vinaigre, quelle merveille! Je tète ce liquide sublime dont l'éponge est si riche. Je bois, je suis tout entier dans le délice. Je ne laisse pas une seule goutte dans l'éponge. « Il m'en reste, » dit le soldat. « Je lui tends à nouveau l'éponge ?» Le chef refuse. « Ça suffit !» Suffire, quel verbe horrible! En vérité, je vous le dis, rien ne suffit. Le supérieur n'a pas davantage de motifs de refuser qu'il n'en avait d'autoriser. Le commandement est une tâche obscure. Je m'estime heureux d'avoir pu boire une ultime fois, même si ma soif n'est aucunement étanchée. J'ai réussi. L'orage va éclater. Les gens voudraient que je meure. Ça commence à bien faire, cette agonie qui n'en finit pas. Moi aussi, j'aimerais mourir vite. Il n'est pas dans mon pouvoir de précipiter ce trépas. Le ciel se déchire, éclaire, tonnerre, averse. La foule se disperse, mécontente. Encore heureux que c'était gratuit, il n'est même pas mort. Il ne s'est rien passé. Je n'ai pas la force de tendre la langue pour attraper la pluie, mais elle mouille mes lèvres. Et j'éprouve la joie sans nom de respirer encore une fois le meilleur parfum du monde, qui portera un jour le beau nom de pétrichor. Madeleine est toujours là, devant moi. La mort sera parfaite. Il pleut, et j'ai les yeux dans ceux de la femme que j'aime. Voici venu le grand instant. La souffrance disparaît. Mon cœur se desserre comme une mâchoire et reçoit une charge d'amour qui dépasse tout. C'est au-delà du plaisir. Tout s'ouvre à l'infini. Il n'y a pas de limite à ce sentiment de délivrance. La fleur de la mort n'en finit pas d'épanouir sa corolle. L'aventure commence. Je ne dis pas, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je l'ai pensé beaucoup plus tôt, mais là je ne le pense pas. Je ne pense rien. J'ai mieux à faire. Mes dernières paroles auront été « J'ai soif ». Il m'est donné d'entrer dans l'autre monde sans rien quitter. C'est un départ sans séparation. Je ne suis pas arraché à Madeleine. J'emporte son amour là où tout débute. Mon ubiquité a enfin une signification. Je suis à la fois dans mon corps et hors de lui. Je lui suis trop attaché pour ne pas laisser en lui une part de ma présence. L'excès de douleur que j'ai éprouvé ces dernières heures n'était pas la meilleure façon de l'habiter. Je ne me sens pas amputé de lui, au contraire. J'ai l'impression de recouvrer certains de ses pouvoirs, comme l'accès à l'écorce. Le soldat qui m'avait donné à boire constate mon décès. Cet homme ne manque pas de discernement, la différence n'est pas flagrante. Il avertit son chef qui me regarde d'un air dubitatif. Ce moment m'amuse. Si je n'étais pas tout à fait mort, qu'est-ce que cela changerait? Faut-il que ce centurion croie en ma magie pour redouter une tromperie? Franchement, là, si je voulais ressusciter, j'en serais incapable pour une raison simple. Je suis épuisé. Mourir fatigue. Le chef ordonne aux soldats de me transpercer le cœur avec sa lance. Cet ordre bouleverse le malheureux qui m'a pris en affection. Cette lance qui a servi à m'abreuver avec l'éponge, il répugne à y recourir pour me blesser. Le supérieur s'énerve. Il exige d'être obéi aussitôt. Il faut vérifier si je suis mort. Exécution. Le soldat pointe sa lance vers mon cœur. Il l'évite exprès, comme s'il voulait ménager cet organe. Il me transperce, juste en dessous. Je ne m'y connais pas assez en anatomie pour préciser ce qu'il a atteint. Je sens le tranchant de son arme en moi. Mais je n'ai pas mal. Un liquide s'écoule qui n'est pas du sang. Convaincu, le centurion annonce « Il est mort !» Les rares personnes encore debout devant moi s'en vont, tête basse, à la fois désolées et rassurées. La plupart attendaient un miracle. Il s'est produit, sans être remarqué. Tout ceci a paru très peu spectaculaire. C'était une crucifixion ordinaire. S'il n'y avait pas eu un orage à la fin, on aurait vraiment eu le sentiment que l'Éternel s'en fichait. Madeleine court prévenir ma mère. « Ton fils ne souffre plus. » Elles tombent dans les bras l'une de l'autre. La partie de moi qui survole désormais mon corps les voit et s'en émeut. Madeleine prend la main de ma mère et la conduit au Golgotha. Le centurion a ordonné aux soldats et à deux comparses de me descendre de la croix, qui repose sur le sol. On a la délicatesse d'enlever les clous de mes mains et de mes pieds, avant de m'en détacher, afin qu'ils ne soient pas déchiquetés. J'avoue que je suis sensible à cette attention. J'aime mon corps. Je ne voudrais pas qu'on le maltraite davantage. Ma mère demande qu'on lui remette mon cadavre, et personne ne lui conteste ce droit. Depuis que les Romains ne doutent plus de mon décès, c'est fou ce qu'ils sont gentils. Qui croirait que ce sont les mêmes qui m'ont brutalisé depuis le matin? Ils semblent sincèrement touchés par cette femme venue réclamer la dépouille de son fils. J'aime cet instant. L'étreinte maternelle est d'une douceur extrême. Ce sont d'ultimes retrouvailles. J'en ressens la caresse et l'amour. Les mères dont un enfant meurt ont besoin du corps du disparu, précisément pour qu'il ne soit pas disparu. Autant j'avais détesté rencontrer ma mère après la première chute sous le poids de la croix, autant j'aime être une dernière fois dans ses bras. Elle ne pleure pas. À croire qu'elle sent mon bien-être, elle me dit des mots adorables. Mon tout petit, mon oisillon, mon agneau de lait. Elle pose des baisers sur mon front et mes joues. J'en tressaille d'émotion et, curieusement, je ne doute pas qu'elle s'en rende compte. Elle n'a pas l'air triste, au contraire. Ce que l'on appelle ma mort l'a rajeunie de 33 ans. Comme elle est jolie, mon adolescente de mère. Maman, quel privilège d'être ton fils. Une mère qui a le talent de faire sentir à son enfant combien elle l'aime, c'est la grâce absolue. Je reçois cette ivresse qui est moins universelle qu'on ne le pense. Je suis pâmé de plaisir. Curieux statut de mon corps, mort à la souffrance mais pas à la joie. Je ne sais même pas si j'ai recours à la puissance de l'écorce. C'est comme si le miracle en jaillissait spontanément. Ma peau est vivante, qui vibre de bonheur, et ma mère recueille entre ses bras ce tressaillement. La descente de la croix est une scène qui va donner lieu à un très grand nombre de représentations artistiques. La majorité d'entre elles témoigneront de cette ambiguïté. Marie a presque toujours l'air de se rendre compte d'une anomalie qu'elle tait. Quant à ma pâmoison, elle apparaît à chaque fois. C'est bien vu. Même les moins mystiques des peintres se doutent que ma mort est une récompense. C'est mon repos du guerrier. Qu'il y ait ou non une survie de l'âme, comment ne pas soupirer de soulagement pour ce malheureux dont le supplice est fini? Moi qui ai accès aux œuvres d'art du monde entier et des siècles, j'aime regarder les descentes de croix. Je ne jette jamais le moindre coup d'œil aux scènes qui me représentent crucifié, rien qui rappelle le supplice. Mais je suis très ému par les statues ou les tableaux où je vois ma dépouille dans les bras de ma mère. Me frappe la justesse du regard des artistes. Certains, et non les moindres, ont senti le rajeunissement de ma mère. Aucun des textes ne le mentionne. Probablement parce que ce n'est pas censé être important. La Mater Dolorosa a d'autres chats à fouetter que ses rides. D'accord. D'habitude, c'est le défunt qui semble rajeuni sur son lit de mort. Ce n'est pas mon cas. En effet, après une crucifixion, on prend un coup de vieux. Tout se passe comme si c'était ma mère qui bénéficiait de la fameuse bouffée de jeunesse post-mortem. J'aime cette manière dont nos corps sont reliés. Sur la Pietà de l'entrée de la basilique Saint-Pierre, Marie a l'air d'avoir 16 ans. Je pourrais être son père. Le rapport est à ce point inversé que ma mère devient mon orpheline. Quoi qu'il en soit, les représentations de Mater Dolorosa sont toujours des hymnes à l'amour. La mère reçoit le corps de son enfant avec d'autant plus d'ivresse que c'est la dernière fois. Elle pourra se recueillir sur sa tombe chaque jour. Elle sait que rien ne vaut l'étreinte. Oui, même avec un corps mort, tout l'amour du monde ne s'exprime jamais aussi bien que par l'embrassement.